Message que je vais vous apporter ce matin, il y a un peu de résonance, est le fruit d'une réflexion au cours de cette semaine, d'un temps d'insomnie au cours de cette semaine aussi, et en partie aussi de ce que j'ai lu. Et donc j'aimerais vous apporter cela ce matin. J'ai intitulé ce message « Dieu conduit tout par sa grâce ». Et le texte que nous allons prendre, c'est celui de Job 1, verset 1, où il nous est dit « Dans le pays d'Uth, un homme dont le nom était Job, et cet homme était parfait et droit, craignant Dieu et se retirant du mal. » Et un petit peu plus loin, « Et Satan répondit à l'Éternel et dit, « Est-ce pour rien que Job craint Dieu ?» Et puis le deuxième verset, chapitre 42, 12, « Et l'Éternel bénit la fin de Job plus que son commencement. » Ce matin, je vais vous parler de Satan. Vous vous attendiez peut-être que je parle de Jésus-Christ. Oui, vous savez, je suis un peu surprenant comme cela dans mes messages. Satan comprenait Job. Il connaissait le fonctionnement de cette nature corrompue de l'homme que son propre mensonge avait formé dans le jardin d'Éden. Et c'est pourquoi il dit « Est-ce pour rien que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas, toi, entouré de toutes parts d'une haie de protection ? Mais étends ta main et touche à tout ce qu'il a. Tu verras s'il ne te maudit pas en face. Peau pour peau, tout ce qu'un homme a, il le donnera pour sa vie. » Job 1, 9, 11 et 2, 4. C'est une pensée, j'allais dire, sérieuse et en même temps terrible à la fois, de savoir que Satan nous connaît si bien et comprend ce que nous pensons et voulons. Mais bien que Satan ait compris Job, Satan n'a jamais compris Dieu. Oui, amen. Ça, c'est une vraie réalité. Et j'ai envie de vous dire ce matin, peut-être que vous ne le savez pas, mais Satan est en train de vous persécuter. Vous savez, aujourd'hui, c'est la journée de l'Église persécutée. Vous comme moi, vous avez entendu tous les drames qu'il y a eu tous ces temps derniers. Nous avons l'impression que c'est loin de nous, que ça ne nous touche pas. Mais en réalité, nous sommes persécutés. T'as l'image ? Non ? Non, tu ne peux pas la mettre. Oui, Satan vous persécute, nous persécute, me persécute, et il le fait en ce moment. Ne nous méprenons pas. Nous sommes, mes frères et sœurs, dans le combat spirituel. L'Église, elle est dans le combat spirituel. Est-ce que nous avons une vision du monde aujourd'hui, dans sa globalité? Et la réflexion que nous pouvons nous faire, pourquoi n'y a-t-il pas de persécution d'Occident ? Particulièrement en France. Satan serait-il devenu inactif, feignant, pour qu'il laisse une bonne partie de l'Église en paix? Nous aurait-il oubliés? C'est ce que je supposais implicitement, sans y avoir vraiment réfléchi. Effectivement, en France, comme dans n'importe quel pays, un chrétien peut être rejeté par sa famille, il peut être persécuté sur son lieu de travail, etc., etc. Il y a eu même récemment, en France, quelques églises qui ont été attaquées. Et puis dernièrement, aux États-Unis, vous avez entendu ce qui s'est passé. Mais la Bible nous dit, et si nous le croyons vraiment, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, nous dit l'apôtre Paul à Timothée 2, 3-12. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire qu'il y a trop peu de chrétiens pieux chez nous pour que la persécution ne soit visible. Pourquoi sommes-nous concernés par les avertissements de Jésus à ses disciples à propos de la persécution? Pourrez lire chez vous l'Évangile de Jean, chapitre 15, 18 à 20, et le chapitre de Marc 13. La persécution, elle est polymorphe, ce qui veut dire qu'elle peut prendre plusieurs formes. Elle peut être diverse, capable de se transformer physiquement en modifiant son apparence. Je pense que l'Église en France est persécutée comme elle l'est en Corée du Nord, mais différemment, bien sûr. Je pense que nous ne nous rendons pas compte, et cela pour deux raisons. Nous avons circonscrit la notion de persécution que dans sa dimension matérielle et brutale. Or, elle prend plusieurs formes. Deuxièmement, la nature des attaques de Satan dans les pays comme la France est aussi douce et perverse. Elle ne fait pas de mal, mais elle est là quand même. Considérons simplement ce que déclare l'apôtre Paul à Timothée après lui avoir rappelé une partie des persécutions cruelles dont il fut l'objet. Et je recite ce verset de 2 Timothée 3,12 qui nous dit « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. » La persécution, dans le contexte où l'explique Paul, est liée à la cruauté et à la violence. Dans celui de Timothée, elle est liée à la sournoiserie, à la malveillance d'imposteurs qui égarent l'Église de la vérité. D'autres textes, comme l'Apocalypse, selon Jean, soulignent aussi cette réalité. Le dragon, dans le chapitre 12, persécute l'Église physiquement. Puis au chapitre 13, c'est de la persécution de la bête qui monte de la terre. Celle-ci persécute par la déception, la séduction et la tromperie. Satan influence le monde afin qu'il persécute l'Église de plusieurs façons. N'oublions pas, mes frères et sœurs, que Satan, c'est le lion. C'est le lion rugissant qui cherche à dévorer. nous dit Pierre dans sa première épître au chapitre 5, verset 8. Mais il est aussi celui qui se déguise en ange de lumière pour nous séduire. Car c'est vrai que si vous voyez un lion devant vous, vous allez avoir peur. Non ? Ça ne vous fait pas peur, un lion ? Parce que vous n'en avez jamais vu, et puis vous vous êtes jamais trouvé en face d'eux, surtout quand ils sont en liberté, dans une cage encore. Ça va, mais en liberté. Ils disent, c'est même pas la peine de fuir. Ils courent plus vite que vous. Eh oui, c'est cela. Mais il aussi celui qui se déguise en ange de lumière pour nous séduire, nous dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 11. Et ces images nous aident à comprendre que Satan ne manque pas d'imagination, il ne manque pas de stratégie pour attaquer l'œuvre de Dieu. Si nous n'avons pas de mal à entendre rugir un lion, derrière un régime totalitaire, nous avons plus de mal à le voir se déguiser dans une société matérialiste et relativiste. Alors, il y a deux stratégies chez Satan. Nous faire peur, ça c'est le lion. C'est le lion de la persécution brutale qui détruit, qui tue, qui blesse. Et puis, quand je parle de ça, je pense à l'église de Porte Ouverte et bien d'autres organismes, hein, puisque c'est la journée de la persécution de l'église. N'oublions pas, mes frères et sœurs, je rappellerai à la fin de la prédication, qu'il y a quand même 50 pays où l'église est persécutée dans le monde. 50 pays, c'est pas rien. Sa définition de la persécution est très claire. C'est-à-dire que toute hostilité à l'égard d'une personne ou d'une communauté motivée par l'identification de celle-ci à la personne de Jésus-Christ. Si vous avez un attachement profond pour Jésus-Christ, vous serez persécuté. Nous aveugler par les ténèbres en les faisant passer pour de la lumière. Les mensonges séduisants de Satan et sa violence visent un même objectif, nous rendre incrédules et nous encourager à pécher, mes frères et sœurs. Et c'est pourquoi nous pouvons dire aujourd'hui que 100% de l'Église, elle est persécutée. Alors, bien entendu, vous pourriez me poser la question, mais comment Satan attaque-t-il l'Église chez nous? Comment nous persécute-t-il de cette persécution qui ne nous fait pas de mal? Satan nous persécute en nous harcelant par les tentations les plus sournoises, les plus perverses. C'est vrai que je n'ai pas toutes les réponses à ma propre question, à moi. Mais je voudrais quand même ce matin partager avec vous quelques points afin d'illustrer mes propos. Je me souviens quand j'allais au travail, maintenant je ne sors plus beaucoup, ou alors je prends ma voiture et je fais 200 ou 300 kilomètres. Mais je me souviens quand je prenais ma voiture, quand je prenais le train, quand je prenais le métro. Et quand vous sortez le matin et que vous prenez votre voiture et que vous passez devant un panneau d'affichage ou à l'arrêt au feu et que vous vous trouvez en face d'un top modèle, très court vêtu, bien entendu, en soutien-gorge et en petite culotte sexy. Ça ne donne pas des idées, ça? S'agit-il pas un état d'esprit? Notre regard d'humain, d'homme, de femme, n'est-ce pas pour nous aguicher? Et je ne suis pas arrivé à mon lieu de destination que j'ai été déjà confronté à une multiplicité de ce genre de publicité. Je ne parle pas de la télévision, bien entendu, parce que là, c'est monnaie courante. Et je me sens agressé, je vis un combat spirituel pour mon intégrité avant même d'arriver à mon travail ou ailleurs. Quelle naïveté de croire que toute la sensualité véhiculée par la surconsommation des médias ne transforme pas mon état d'esprit. N'est-ce pas pour me dire que le monde est tout en douceur et de cette vision qu'il veut m'inoculer? Combien de chrétiens et de chrétiennes même vivent dans l'esclavage de la pornographie? Combien de ministères sont détruits à cause de l'immoralité sexuelle? Cela n'a-t-il pas d'impact sur la croissance et la santé de l'Église? Par une vision du monde matérialiste qui nous pousse au conformisme. Là pour le premier point. Deuxième point, c'est le matérialisme. Nous sommes formatés. Nous sommes formatés dans une culture qui désire que nous vivions dans le confort, qui désire que nous vivions dans la sécurité. Mais avez-vous remarqué, mes frères et sœurs, que c'est contraire à notre culture chrétienne? Nécessairement, la vie de disciple, confronté à cette culture, eh bien, crée des tensions. Et nos choix éthiques ne sont pas forcément très faciles. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens sont tellement aveuglés qu'ils ne se rendent pas compte à quel point ils vivent selon les idéaux du monde et non selon ce qu'ils ont entendu le dimanche. Au culte, élu même le matin même dans leur Bible. Pour beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas encore compris que vouloir vivre pour soi est absolument incompatible avec la vie à la suite de Jésus-Christ. Et puis le troisième point, c'est le conformisme. Pourquoi alors que nous avons la chance de pouvoir parler librement de notre foi? Je me pose la question, pourquoi le faisons-nous si peu? Quand on entend les témoignages de l'Église persécutée, quand on voit leur zèle, leur foi, on s'est dit, mais taisez-vous, vous allez vous faire tuer. Chez nous, nous pouvons librement parler, nous ne risquons pas de nous faire tuer, mais nous avons la maladie de nous taire. Soyons honnêtes deux minutes, et franchement, c'est vrai, je le confesse, en ce qui me concerne, j'ai envie de dire, c'est parce que je cache ma peur ou la honte peut-être d'être moqué. Qu'on m'apporte un discrédit dans le prétexte d'être pertinent culturellement. Et puis aussi parce qu'on n'a pas envie de rencontrer de l'hostilité. On veut bien rester ami avec ses amis. On veut bien rester ami avec notre famille. Oui, non, non, on a peur de l'hostilité. On est déjà dans le compromis et c'est... Et je dois avouer que c'est une certaine forme de lâcheté. Je sais que c'est grave aux yeux du Seigneur. C'est grave de ne pas vouloir rendre témoignage de Jésus. Lisons Marc 8, 38. Mes frères et sœurs, nous tiédissons dans cette société. Dans cette société où Satan tente de faire de nous des disciples du monde, alors que nous appartenons à Jésus-Christ. Et je me demande parfois s'il n'y a pas plus de chrétiens qui s'égarent par les séductions que par la torture. Et puis il y a un autre point aussi, où le diable agit. C'est aussi par les fausses doctrines, par les divisions d'Église. Les auteurs du Nouveau Testament se faisaient déjà beaucoup de soucis à propos de la circulation des fausses doctrines. Pour eux, il n'y avait pas de doute que Satan était l'instigateur du mensonge afin d'égarer et de diviser l'Église. Trouver ces exemples dans 2 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 11 et 1 Timothée 3, 7. De nos jours, la séduction apporte les diverses formes de l'Évangile. Et notamment, vous avez entendu parler de cet Évangile de la prospérité. Ah, plus vous allez donner, plus vous allez recevoir. Si vous donnez 100 euros, vous allez en récupérer 1000. Alléluia ! Eh bien oui, mais il y en a qui croient. Même parmi nos chrétiens d'église, qu'ils vont courir après ces prédicateurs. Mais après, ils ont un yacht sur la Côte d'Azur, eux. Hein. Moi, j'ai mon pauvre C15 à la porte, là. Oui. Oui, oui, mes frères et sœurs. De nos jours, la séduction qu'apportent les diverses formes de l'Évangile en sont un exemple, et aussi toutes les dérives sectaires qui vont avec. Et c'est ainsi que le nom de Christ est traîné dans la boue, et le diable s'en réjouit. Chez nous, peu d'églises sont détruites par les bombes. Vous savez par quoi elles sont détruites? Le vide, oui. Mais parce qu'il y a surtout beaucoup de divisions. Il y a beaucoup de divisions. Et des évangiles qui sont prêchés qui ne le sont pas. Par leur relativisme morale au sein même de l'Église. Nous vivons une époque où notre société est dans le flou concernant le bien et le mal. On a des chrétiens qui nous disent « Ah, mais c'est pas grave, frère. Dieu est bon, il pardonne tout, sauf le péché quand il n'est pas avoué. » Eh oui. Quand on donne certaines vérités qui ne sont pas des vérités. Il y a confusion. Mes frères et sœurs, en tant que chrétiens, l'Église a reçu une vocation d'être des témoins de Jésus-Christ. Et l'apôtre Pierre disait, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois dans votre ignorance. Vous étiez ignorant avant, mais aujourd'hui vous savez. Mais de même que celui qui vous a appelé saint, vous aussi devenez saint dans votre conduite, puisqu'il est écrit, Vous serez saints, car je suis saint, dit Jésus. Après les quelques années de ministère, je ne peux calculer le nombre de chrétiens relativisant l'importance de la sainteté au profit d'une grâce à bon marché. J'ai aimé les chants ce matin. J'écouterai ce que Dieu dit. Oui, aujourd'hui on veut nous vendre une grâce à bon marché. Mais mes frères et sœurs, ce matin vous avez pris la scène. Et la scène nous rappelle le souvenir de la table que, il y a 2000 ans, Jésus est mort pour toi, mon frère. Il est mort pour toi, ma sœur. Ça, ce n'est pas une grâce à bon marché. Oui. Nous sommes censés, dit Paul aux Romains, chapitre 6, d'être morts au péché. Oui. Malheureusement, certains prêchent une grâce qui les justifie dans la transgression de la loi. Et puis, il y a aussi un autre danger. Cinquièmement, c'est cette persécution, et c'est vraiment un danger, cette persécution en douceur chez nos enfants et nos petits-enfants. Je voudrais vous apporter un témoignage que j'ai vécu cette semaine, qui a été en grande partie le sujet de mon message. Mercredi, je me suis couché, comme d'habitude, et je voulais m'endormir plus tôt que d'habitude pour me lever de bonne heure, car j'avais bien des choses à faire. Mais voilà. L'heure a tourné. Et pas moyen de m'endormir. Ça vous arrive, ça, des fois? Minuit est passé. Une heure est passée. 2 heures est passée. 3 heures est passée. 4 heures est passée. Et je tournais dans mon lit. Pour ceux qui n'arrivent pas à dormir, ils savent ce que c'est. Je me tourne d'un côté, je me tourne de l'autre. Et je n'arrive pas à trouver le sommeil. Dans le temps, on m'avait dit « compte les moutons ». Mais ça ne marche pas. Alors on m'a dit « compte sur le berger ». Alors j'ai prié. Et c'est alors que dans ma prière apparaissent, comme sur un écran de télévision, 3 mots. Bouillant. Froid. Et l'autre? Tiède. Et instantanément, une question vient à mon esprit, où en es-tu? Et la réponse fut claire, et vous pouvez imaginer laquelle. Je sais que vous n'allez pas oser de dire un mot, mais je vais le dire, moi. Tiède. Voilà ce qui m'a interpellé dans cette nuit du mercredi à jeudi. Je suis tiède. Alors je me suis humilié, j'ai même pleuré. J'ai demandé à Dieu pardon. Et je me suis endormi aussitôt jusqu'au matin. Alors ça m'a amené dans cette réflexion. Aujourd'hui, nombre de familles où les enfants ne viennent plus à l'église. Et je me réjouis ce matin, il y en a. Je bénis le Seigneur, sans doute le fruit de nos prières, de vos prières aussi. Alors, ne cherchons pas les raisons, ce n'est pas le but de ma pensée. Et je n'ai pas ce matin culpabilisé les parents en disant qu'il faut qu'ils viennent, ces enfants, il faut qu'ils viennent à l'église à tout prix. Non. Non, surtout pas. Mes chers parents, priez pour vos enfants. Priez non pas pour qu'ils viennent à l'église, parce que j'imagine que vous priez pour eux et que vous demandez au Seigneur qu'il fasse une expérience personnelle avec Dieu, qu'il fasse une rencontre personnelle avec le Seigneur. Ensuite, s'ils le désirent, ils viendront à l'église. Je me souviens de cette expérience que nous avons vécue, et les parents sont là, puisque je parlais de Mathieu, qui pendant un temps, eh bien, nous l'avons baptisé ici. Et puis, eh bien, il est parti. Et puis, on lâche la main du Seigneur, on ne va plus à l'église. Quoi faire? Quelle angoisse pour les parents, qu'est-ce qu'on peut faire? Ils sont des adultes maintenant. C'est le plus âgé de mes petits-fils. Mais dans mon cœur, quelle tristesse, quelle profonde tristesse de voir de mes petits-enfants qui ne sont pas, j'allais dire, au Seigneur. Quelle tristesse, et j'imagine pour vous aussi, quelle tristesse. Mais je dis, mais Dieu fait grâce, parce que Mathieu est revenu. Et je me souviens de ce dimanche qu'il était là, il était presque à la place de Patrick, là. Bon, mon message était comme celui d'habitude, aussi percutant, si je puis dire. C'est pas pour lui le message. Mais ça l'a décidé à revenir au Seigneur, peut-être déjà, mais dans son cœur, parce que déjà être là, à l'église. Parce qu'on peut être à l'église, mais on ne peut pas être forcément à Dieu. Et forcément attaché au Seigneur. Oui. Oui, c'est pourquoi je dis ce matin, n'oublions pas nos enfants, vos enfants, parce qu'ils sont sous l'influence de Satan. C'est ce que nous dit Paul, tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Et j'aimerais vous citer ce texte qui m'a percuté, moi, dans cette nuit du mercredi, Apocalypse 3,16. « Ainsi, parce que tu es tiède, » ces paroles sont terribles, mes frères et sœurs, « parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Ça m'a fait froid dans le dos. Un texte que j'avais lu combien de fois, mais qui ne m'avait pas forcément effrayé de cette manière-là. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Mais puisses-tu être froid ou bouillant, enfin? Positionne-toi. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ah, frères et sœurs. Non, quand on a entendu cela, on ne peut pas rester indifférent. Parce que mes frères et sœurs, l'Évangile, et l'Évangile que nous annonçons aujourd'hui, s'il ne se traduit pas par une transformation progressive de notre vie, qui ne produit pas une haine du péché et une soif de la sainteté, nous en avons parlé dans les chants ce matin, alors ce n'est pas l'Évangile que nous prêchons. Mes exemples n'ont pas pour prétention de représenter ce que vivent tous les chrétiens et les églises locales en Occident. C'est mon point de vue, moi, aujourd'hui, à travers cette expérience. ce qui est en jeu dans la persécution, quelle qu'en soit la nature, c'est notre piété, mes frères et sœurs, c'est ma piété. Et c'est pourquoi je recite ce verset de Paul à Timothée, tous ceux, d'ailleurs, qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Ce qui est en jeu, ce que Satan cherche à détruire, c'est l'annonce de l'Évangile. Il fait en sorte que vous ne puissiez plus témoigner, que vous ne vouliez même plus témoigner, parce qu'il va vous donner les arguments nécessaires pour que vous ne témoigniez plus. Non, soyons fidèles à notre témoignage. Nous ne serons pas persécutés, mes frères et sœurs, pour nos œuvres sociales. Nous ne serons pas persécutés pour nos projets, quels qu'ils soient. Mais l'hostilité se manifestera toujours, afin qu'on ne prêche pas fidèlement la parole de Dieu dans l'Église, qu'on ne témoigne pas de l'œuvre et de la personne de Jésus-Christ dans nos villes. Mon but est de nous encourager à ne pas oublier qui nous sommes dans ce monde perdu, dans ce monde qui se veut neutre, mais qui est tout de même hostile à Dieu. Ne l'oublions pas. Hostile au peuple de Dieu. Et Satan s'acharne de toutes ses forces afin qu'il nous rende incrédules. J'aimerais vous citer un propos d'un pasteur. Pour combattre cet adversaire, il s'agit de combattre simultanément le monde et la chair. Nous sommes témoins de la puissance du diable lorsque nous observons la chair. Nous sommes témoins de la puissance de Dieu lorsque nous observons la foi et les bonnes œuvres. Combat, le bon combat. Oui, mes frères et sœurs, la persécution est polymorphe. Dans une guerre, les attaques sont de différentes natures et les batailles n'ont pas toutes les mêmes intensités. Je me garderai bien de dire que la persécution sournoise que nous connaissons essentiellement est aussi atroce que celle qui est brutale et que connaissent trop de frères et sœurs dans le monde qui vivent l'horreur. Mais elle est tout aussi dangereuse, car nous avons affaire au même ennemi. Nous ferions donc bien de veiller attentivement que Dieu nous aide à être la lumière dans les ténèbres de ce monde et à tenir ferme. Et je terminerai simplement pour vous encourager à vous informer à propos des 50 pays où la foi coûte la vie, afin de prier pour nos frères et sœurs persécutés qui vivent dans ces pays où ils craignent pour leur vie. Amen. Seigneur, merci. Merci pour ton amour, pour ta fidélité. Seigneur, merci parce que tu nous donnes de témoigner de ton amour. Tu nous interpelles, Seigneur, comme tu l'as fait. Puisse ce matin nous interpeller sans jugement, où chacun se place devant toi. Chacun a une réponse à t'apporter. Seigneur, tu vois dans le secret des cœurs. Tu donnes ta grâce et tu donnes ta bénédiction. Je sais que les choses ne sont pas faciles et que chacun d'entre nous, dans quelque situation que ce soit, nous avons besoin particulièrement de ta grâce. Parce que ta grâce, elle continue. elle est toujours là. Et nous en sommes toujours les bénéficiaires. Tu ne nous dis rien comme cela au hasard, au gré des humeurs, au gré des événements. Mais je crois que tu conduis tout par grâce. Et que ton esprit conduit tout par grâce. Parce que tu nous aimes, nous l'avons chanté. Tu nous aimes vraiment. Et tu veux que nous soyons sauvés. Tu veux que nous soyons bénis. Seigneur, alors merci de ne pas nous juger, de ne pas nous condamner. Seigneur, merci pour ton immense bonté et ton amour infini. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.